Les Déambulations de Blandine, un podcast pour déambuler librement entre art et création. Une réalisation de monstudio.tv.
Alors, en fait, je me disais que finalement, personne ne sait vraiment d'où viennent les musées. Donc, je trouvais plutôt amusant de parler rapidement de la façon dont le musée de Nantes a été créé. C'est mon téléphone. Je coupe tout. Alors, j'avais prévu de commencer tout simplement et tout bêtement sur la création du musée de Nantes. Comment, pourquoi des collections arrivent? Comment, pourquoi tout d'un coup on trouve que c'est suffisamment important pour que tout le monde en profite? Donc, ça commence très bêtement, en fait, au tout début du 19e siècle, la Révolution française. Aujourd'hui, j'avais envie de me concentrer sur 1801. Bonaparte est notre premier consul, il organise toute la France, et, chose formidable, il n'oublie pas les musées. Pourquoi? Je ne sais pas, mais il fait partie des gens qui, malgré tout, considèrent que les œuvres d'art peuvent être un moyen de, comment dirais-je, peut-être unifier un peu le territoire. L'idée de musée va apparaître assez vite. 1793, on a récupéré énormément d'œuvres. Les collections royales, les collections des immigrés, ils sont partis un peu vite, ils ont laissé tout derrière eux. Les collections de l'Église, qui étaient extrêmement importantes. On réunit tout ça dans ce qu'on appelle très vite le Muséum central. Cette grosse institution, pourquoi on ne détruit pas tout? Parce que vous êtes tous au courant des destructions vandalistes, entre guillemets, des révolutionnaires sur les cathédrales, sur un certain nombre de châteaux, etc. Mais assez vite, on se dit que finalement, on pourrait réunir tous ces objets pour le bien de tout le monde. Et c'est une notion extrêmement française. Il y a énormément de pays, en particulier par exemple aux États-Unis, où les collections sont entre guillemets privées, gérées par ce qu'on appelle des boards, c'est-à-dire des personnes qui sont à la fois donateurs et d'œuvres et en même temps de moyens pour faire tourner le musée. En France, non, on décide que c'est une institution publique. Le muséum est une institution publique. C'est, je crois, une notion très très importante. Puisque tout le monde, tous les Français, les 66 millions de Français, sont possesseurs d'un 66 millionième de la Joconde. Et 1793, création du muséum, et puis là-dessus, Bonaparte, vous le savez, va se balader partout en Europe, et victorieux, il va rapporter en France énormément d'œuvres d'art, en particulier d'Italie, mais aussi du Nord. Et début du 19e, le muséum éclate, il est plein à craquer. On ne sait plus comment montrer les œuvres, tellement il y en a. Et sur le territoire français, un certain nombre de collectifs de municipalités avaient émis le souhait d'ouvrir des musées. Or, il avait été décidé que ça relevait d'une décision de l'État. Donc, Bonaparte va demander à son ministre de la Culture d'époque, Chaptal, d'imaginer un certain nombre de lieux dans lesquels on pourrait déposer des collections. Il décide, Chaptal fait une liste de 5 musées. Bon, il passe ça à Bonaparte. Bonaparte, qui ne dormait que très peu, regarde ça dans la nuit et sort une liste de 15 villes. Alors, il y a Bordeaux, Caen, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Nancy. Pourquoi Nancy, qui est toute petite ville à l'époque? Tout simplement parce qu'on vient de récupérer la Lorraine. Donc, n'oublions pas toutes les marges de l'Empire. Nantes, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, vous voyez, on fait le tour à peu près du territoire français, mais à cette époque, le territoire français est grand, et il y a également Bruxelles, Mayence et Genève. Donc, ces 15 musées, il faut les doter. Alors, on va faire des lots. C'est tout à fait étonnant, on réunit une commission, et cette commission fait des lots d'environ une quarantaine de tableaux. Ce lot, eh bien, il y a à peu près la moitié de collections françaises, mais évidemment flamands, hollandais et italiens. Et ces lots sont considérés comme équivalents. Donc on les tire au sort. Alors, bon, c'est assez étonnant parce que Nantes va bénéficier d'un certain nombre d'œuvres, et c'est assez formidable. Nantes en a 43 qui vont arriver en deux temps. Elles arrivent en 1804 et en 1809. Mais bon, rien qui, a priori, concerne directement l'école nantaise, qui n'existe pas forcément d'ailleurs. Nantes va se retrouver avec une grosse quarantaine de tableaux. Et il se trouve qu'à Nantes, ce qui n'était pas le cas dans la majorité des villes que j'ai citées, il n'y avait pas eu d'idée de faire un musée. Donc on n'avait pas, les révolutionnaires n'avaient pas récupéré les biens des immigrés, les biens d'église, pas plus que ça. Et donc pendant très longtemps pour Nantes, c'est ça qui est assez rare, pendant très longtemps, il n'y aura pas de musée à proprement parler. Les collections vont décorer le bureau du maire, le bureau de la préfecture, etc. Les collections sont dispersées dans la ville et il faudra attendre 1830 pour la création du musée qui, à ce moment-là, sera installé dans ce qu'aujourd'hui vous pouvez identifier comme le magasin C&A. Qui a autrefois été une patinoire, qui autrefois encore a été une halle, et qui, de 1830 à 1900, va être le musée Clark de Feltre, dont on parlera peut-être plus longtemps, plus tard, si on continue ces petites conversations sur la création du musée. Et puis, Nantes était une des rares villes à ne pas avoir de musée. Sûrement, on s'occupait de beaucoup d'autres choses, alors que, histoire formidable, la municipalité nantaise, pourtant pour décorer sa mairie, avait fait venir David. Et David fait un projet assez beau pour la mairie. Bon, le projet n'a pas été malheureusement réalisé. Le musée conserve un dessin préparatoire formidable, où on voit la liberté descendre d'un bateau sur les quais qui ressemblent aux quais d'aujourd'hui, hein, c'est tout à fait étonnant, et briser ses chaînes, voilà. Donc pourquoi Nantes n'avait pas de musée? Sans doute y avait-il d'autres préoccupations à Nantes. Mais les collections arrivent. Les biens de la couronne sont depuis tous les temps, mais c'est vraiment une très vieille loi, imprescriptibles et inaliénables. Et ce principe va s'appliquer aux collections muséales. Ça, c'est vraiment une prérogative française. C'est très particulier. On ne peut pas sortir d'un inventaire une œuvre sans avoir fait tout le chemin inverse et sans la déclasser. Il faut passer devant le Parlement. Vous avez peut-être entendu parler en ce moment du problème des restitutions des objets africains. Ça passe devant le Parlement. C'est assez compliqué. Les députés avaient voté un texte et avait adopté un texte, le Sénat a retoqué le texte. Alors, en deux mots, pourquoi c'est très très important? Nous n'avons pas que des chefs-d'œuvre dans nos musées, mais les musées français sont des musées qui racontent une histoire. Chaque fois qu'une œuvre rentre dans le musée, d'abord il y a une commission hein, pour accepter l'œuvre, mais elle rentre pour une raison, bonne ou mauvaise, mais pour une raison. Et cette raison fait partie de notre histoire. Et donc, souvent, quand on travaille avec des collections, en fait, on peut faire tourner ces collections parce qu'on raconte chaque fois un petit bout d'histoire, et un morceau d'histoire différent. C'est la raison pour laquelle nos musées ne sont pas des musées de chefs-d'œuvre. Ça n'a rien à voir. Mais on raconte, par exemple, le 17e français, on va raconter le 18e italien, etc. Voilà, donc cette notion d'imprescriptibilité des collections vient des collections royales. Tous les rois décoraient leurs châteaux avec tapisseries, tableaux, sculptures. Mais à partir de Louis XIV, là, c'est véritablement la notion de collection qui va s'installer et il va être un grand acheteur. Il va bien sûr commander des décors, on connaît Versailles et les décors de Lebrun, mais il va surtout acheter des collections. Et ce qui est intéressant, c'est que le marché de l'art se met vraiment en place au XVIIe. Le goût de Louis XIV va finalement influer sur l'ensemble des collections, parce que la majorité des collections royales sont aujourd'hui le socle du Louvre. Non pas pour l'archéologie, mais pour ce qui est de la collection de peinture. Aussi bien la peinture italienne que la peinture flamande, que la peinture française vient, en fait, soit du goût de Louis XIV, soit après de ses successeurs. D'ailleurs, il y avait un inventaire qui était tenu. Ces collections étaient gérées par des peintres en général. On appelait ça le cabinet des tableaux. Et grâce à tous ces inventaires, on peut, entre guillemets, à peu près imaginer le goût de Louis XIV. Et donc voilà, moi je voulais vous parler de trois tableaux qui viennent de ces collections royales. Certes, la majorité des collections royales sont au Louvre. Le Louvre a gardé ce qui lui semblait le plus important. Mais si vous vous promenez dans le musée, vous pourrez découvrir ces collections qui sont toujours exposées. parce que le premier fonds des 43 tableaux est aujourd'hui, c'est une histoire qui a duré très très longtemps et la décision est relativement récente, mais aujourd'hui ces collections sont définitivement dévolues en fait au Musée des Beaux-Arts de Nantes. Jusqu'à présent c'était géré comme des dépôts de l'État, ce qui voulait dire que chaque fois qu'on voulait restaurer un tableau ou le réencadrer, on demandait l'autorisation au Louvre qui venait voir ce qu'on faisait. Aujourd'hui il y a une plus grande indépendance. Alors je voulais vous parler en particulier d'un petit diptyque qui est dû à un peintre hollandais qui s'appelle Jean Bruegel l'Ancien, dit Jean Bruegel de Vlour, qui est le fils du grand Bruegel, que vous connaissez peut-être parce qu'on connaît assez bien les tableaux, qui sont des tableaux qui sont des, comment dirais-je, ce sont souvent des fêtes populaires. On voit des gens danser dans ces costumes de l'extrême fin du XVIe siècle. Et les personnages sont omniprésents dans les tableaux de Bruegel. Ils ont un côté assez croustillant. Il y a, si vous regardez bien dans un petit coin, il y a toujours un monsieur qui est en train de faire pipi ou il y a deux femmes en train de s'embrasser dans ces grands bals. Alors son fils, Bruegel de Vlour, est plus sage. Il est plus rangé. Et ces deux tableaux sont vraiment ce qu'on appelle des tableaux de cabinet parce que ce sont des petits tableaux peints sur cuivre, peints à l'huile sur cuivre, qui sont un peu plus grands que deux mains. Et dans ces deux petits tableaux, qui ont été vendus par un des grands marchands, Yabak, à Louis XIV, ils ont été vendus pour des diptyques. Or, les historiens d'art, qui sont toujours en train de regarder très, 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 de très près ce qu'il en est, ce n'étaient pas du tout des diptyques. Chaque tableau est totalement indépendant, ils ne sont pas du tout de la même date. Et dans le fond, on peut les mettre côte à côte, mais on voit que la technique de Jean Bruegel de Vlour a un peu évolué. Alors, ces deux tableaux ont deux thèmes d'ailleurs qui n'ont pas grand-chose à voir, hormis que ce sont deux paysages qui abritent des sujets. Au XVIIe, les peintures de paysages purs sont encore relativement, pour ne pas dire carrément, totalement rares. Il y a toujours un sujet à l'intérieur. On ne fait pas du paysage pour faire du paysage. C'est à la fin du XVIIe qu'on va commencer à ne faire des paysages sans personne. Et donc, il y a un retour de chasse, une petite scène très anecdotique, on voit un groupe de personnages qui montrent du doigt une auberge, ils en ont assez de chasser, ils vont vite rentrer. Et ce grand paysage est construit à la manière des paysages flamands, qui s'inspire d'ailleurs des paysages italiens du 15e. Vous savez que pour qu'il y ait de l'espace dans un paysage, pour qu'il y ait de l'air, le fond, l'extrême fond, les plans très très lointains sont bleus, et plus on se rapproche, plus ça devient de la terre marron, se promène en fait dans une réalité. Le fond bleu donne cet espace et donne, j'ai envie de dire, cette idée d'air. Le deuxième paysage est un embarquement de personnages. Il y a une très jolie technique chez Bruegel pour rendre l'eau et ses bateaux. Et puis, vous avez cette... Alors, ce n'est pas un embarquement pour citerne, ce n'est pas encore bateau, c'est différent. Mais malgré tout, ces personnages décrits avec beaucoup de précision. Vous pouvez voir le tablier de la dame au premier plan qui tient la main de sa petite fille. Vous pouvez regarder tout ça, c'est fait avec un pinceau extrêmement fin et très sensible. Mais ces personnages embarquent, on ne sait pas trop vers quoi. Donc, est-ce qu'il y a un message philosophique dans ce tableau, je ne suis pas sûre. En tout cas, il y a la même technique colorée avec les fonds bleus et les premiers plans beaucoup plus colorés avec les personnages et leurs costumes. Autre tableau dont je voulais vous parler, qui est un artiste peut-être moins connu et pour cause, on ne connaît qu'une petite quarantaine de tableaux de Jacques Fouquière. Alors Jacques Fouquière a la particularité d'être né à Anvers, d'avoir été formé à Bruxelles et d'arriver à Paris. Et à Paris, il va faire beaucoup, alors lui pour le coup, des très grands paysages. Il y a des tout petits personnages qui donnent le sujet, mais c'est vraiment, c'est ça qui est assez formidable, un grand paysagiste. Malheureusement, la grande majorité de ses tableaux vont brûler au moment de l'incendie des Tuileries pendant la Commune. Donc, il ne reste que très peu de tableaux et il se trouve que Nantes a bénéficié d'un de ses très grands paysages flamands avec un goût absolument formidable, justement pour le traitement de la perspective dite colorée. On retrouve la même façon de traiter le paysage que chez Bruegel de Vlour, mais vous verrez l'espace qu'il y a, c'est un grand tableau, il mesure plus d'un mètre de haut et deux mètres de large, et dans ce grand tableau, vous pouvez presque vous promener. Évidemment, le paysage est imaginaire, il est extrêmement rare, que nous ayons des paysages relevés sur le motif. Ça viendra plus tard, puisque ce tableau date du début du XVIIe siècle. Hein. Ensuite, un dernier tableau dont je vais vous parler, parce que parmi les goûts royaux, n'oublions pas l'Italie. On sait très bien comment la Joconde est arrivée, grâce à notre bon roi François Ier, mais tous les monarques vont suivre ce qui se passe en Italie, et en particulier cette peinture 17e italienne qui a tellement marqué l'Académie française au milieu du 17e. Et donc je vais vous parler de Guido Reni. Guido Reni est un peintre qui a été formé à Bologne, mais qui a regardé d'extrêmement près la peinture du Caravage. Et donc vous allez avoir le mariage entre cette peinture très classique, très sage, très bien peinte, et un petit peu de réalisme, très réalisme, comme qui vient du Caravage. Et ces deux courants se croisant, on a ce Saint Jean-Baptiste, tout à fait étonnant, ce jeune homme. Certes, il a une jupe en poil de chèvre, mais pour le reste, on est assez proche, en fait, d'une peinture d'un nu académique classique, mais avec cette douceur bolognaise qui est assez connue. En Italie, chaque ville avait son école et ses grandes directives. Donc nous voilà avec ce Saint Jean-Baptiste acheté par Louis XV, sans doute en fait pour sa dévotion personnelle, parce que c'est vraiment un tableau à la fois d'une grande douceur et il est assez grand bien sûr, parce que ce n'est pas un tableau digne de chapelle, enfin bon c'est un tableau pour la décoration, mais l'intimité de Jean-Baptiste, qui est donc ce compagnon du Christ, qui est symbolisé de façon très simple par non seulement le bâton qui est en haut est une croix, et puis ce petit mouton, on reconnaît comme ça assez facilement le sujet. Ce Saint Jean-Baptiste est traité de façon extrêmement fine et une grande douceur, comme cette façon de caresser son petit mouton. Voilà ce que je voulais vous dire sur les collections royales et qui sont un des pans. Je n'en ai pris que quelques toiles, je n'ai pris que trois exemples, mais bon, c'est donc un des morceaux des 43 tableaux envoyés par Bonaparte entre 1804 et 1809.